RMC.
Rebound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds.
Basket Time, votre rendez-vous basket sur RMC, tous les mardis à télécharger sur rmc.fr. C'est la fin de saison et on se régale avec les playoffs de la NBA, avec les playoffs de l'Euroleague également. Et ce soir, aujourd'hui plutôt, mais vous allez l'écouter le soir, je vous fais confiance. Eh bien, c'est un spécial demi-finale de conférence NBA. La Dream Team, Stephen Brun, Frédéric Weiss, Geoffrey Charpie. Salut les gars.
Salut Pierrot.
Basket Time, on le télécharge le soir, non? Le basket, c'est un truc de la nuit.
Mais bien sûr.
On est habitué à regarder ces matchs la nuit depuis l'époque Jordan.
Le soir ou quand t'es aux toilettes?
J'aime bien les petits matchs du dimanche, là. Les matchs dimanche 19h, 21h, c'est cool ça.
Les podcasts, ils font presque 50 minutes quand même. Si tu l'écoutes aux toilettes, il faut.
Alors, t'as des fourmis dans les jambes au bout d'un moment? Il faut se lever un peu.
Tu connais pas encore très bien Stephen Geoffrey.
D'accord.
Est-ce que vous régalez pendant cette demi-finale? Il y a eu des beaux affrontements quand même.
Il y a eu des matchs fous, moi. Sixers, New York, c'était magnifique.
Série, hein.
Et pour l'instant, Denver, Minnesota, je trouve ça plutôt intéressant. Alors, je pensais pas que ça se passait comme ça, mais c'est plutôt intéressant.
Alors, le Cleveland-Orlando match 7 a été abominable. Mais...
Ouais, mais il fallait bien un gagnant, et voilà. c'est le moins
donc,
mauvais.
Nous allons parler de ces demi-finales de conférence en démarrant par l'Ouest. Qui arrêtera Anthony Edwards et les Wolves? Incroyable sensation quand même, il mène 2-0 après les deux premiers matchs à Denver. À l'Est, il y a des nouveaux. À l'Est du nouveau, donc Indiana, New York et Cleveland. Alors Cleveland, c'est pas tout à fait nouveau, mais il y a quand même des surprises. Et puis Boston qui a l'air seul au monde. Et puis bien sûr, dans la partie historique, nous allons revenir sur cette récompense historique pour le basket français. Victor Wembanyama, rookie de l'année. Je vous poserai la question, sera-t-il à coup sûr MVP un jour? Vous répondrez à cela tout à l'heure dans la partie historique. Le quiz est consacré aux demi-finales de conférence, mais il y a énormément de surprises.
Ah.
Il y aura notamment un blind test. Comme ça, c'est comme ça. J'aime bien un peu varier les plaisirs.
Chanteur,
il y a juste un morceau à trouver. Qui a un rapport mais très éloigné avec l'actualité des demi-finales de conférence.
Tu sais que tu m'inquiètes déjà quand tu l'écris comme ça. Tu es en train d'essayer de trouver des justifications, c'est chaud.
Et donc, on est parti pour un spécial demi-finale de conférence. Et on démarre à l'Ouest.
Edwards, hanging, scoring, plus the foul. Edwards, spinning, putting it up, and it!
That Duke can score in so many different ways. I love this.
Both of these teams, Edwards three.
Mm-hmm. Wow. How about the body control with the contact from the Joker?
Edwards on the move, two defenders on him, no problem.
Off the glass, baby.
Edwards, spinning, putting it up, and it!
Alors donc, on est sur des demi-finales à l'Ouest pleines de surprises puisque Minnesota a remporté les deux premiers matchs à Denver. Denver qui semblait être une forteresse imprenable et en plus ils gagnent bien. Hein. Ils gagnent sans contestation, ils gagnent la nuit dernière sans Rudy Gobert. Je vous pose la question, qui arrêtera Anthony Edwards et les Wolves? On les imaginait pas démarrer comme ça cette série, Fred.
Franchement, hier, enfin cette nuit, enfin je sais pas comment on appelle ça, je me suis rendu compte que c'était peut-être le match défensif le plus abouti en NBA hein, que j'avais vu.
Ah vraiment ?
Parce que c'était vraiment très fort. Alors oui, j'ai trouvé Denver un peu apathique. Oui, on sait que Jamal Murray a un problème au mollet. Oui, on sait que Nikola Jokic a l'air un petit peu fatigué. Il a l'air un petit peu sur la jante. Mais qu'est-ce que c'est fort défensivement. Il y a des rotations tout le temps, ça bouge tout le temps.
Qu'il y ait Rudy Gobert ou pas d'ailleurs, c'est ça qui est dingue.
Oui, mais Nazrig a fait le taf, je l'ai vu, une très bonne défense par exemple sur Nikola Jokic, où d'abord il le compte, ensuite il le conteste, et il le conteste une troisième fois, ce qui n'arrive jamais. Normalement, Nikola Jokic trouve une solution au moins à la troisième fois. Franchement, j'ai vu des rotations, j'ai vu de l'envie, j'ai vu de l'engagement, des mains actives, Kyle Anderson qui vole des ballons, je l'ai vu mettre un contre, je savais même pas que Kyle Anderson pouvait sauter. Je sais pas quoi dire. Franchement, j'ai été absolument bluffé. Oui, il y a eu des trous d'air offensifs, mais ça on savait, on sait que cette équipe parfois peut avoir des trous d'air offensifs. Il y a Anthony Edwards évidemment offensivement, Karl-Anthony Towns fait un premier carton monstrueux. On a trouvé des solutions avec Nazrid par exemple, avec Alexander Walker aussi qui sanctionne à chaque fois qu'il est à 0 degré, mais cette équipe a des certitudes défensives incroyables. Chris Finch a fait de cette équipe de loups une barrière quasiment infranchissable.
Et alors, peut-être la stat la plus révélatrice, c'est les 16 petits points de Nikola Jokic au match 2, Steve. Ils ont réussi, pour l'instant, à arrêter Nikola Jokic.
Ouais, ils ont depuis deux ans, c'est la seule équipe qui peut réduire à néant les forces offensives de cette équipe des Nuggets, qui est dans le jeu. On a toujours loué les qualités de justesse, de discipline très rigoureuses. Là, ils n'y arrivent plus. Quand tu perds 16 ballons pour 16 passes décisives, ça veut dire qu'en face, y a une équipe qui te fait sortir de tes plans de jeu. Et quand tu sors de tes plans de jeu, alors que tu es une équipe qui est bien cadrée, et ben tu n'y arrives plus. Ils essayent de tenir un maximum Jokic en 1 contre 1 et en venant trapper le moins possible, ce qui fait qu'il y a moins de décalage à l'opposé. Physiquement, ils sont là, ils s'opposent physiquement. Les jeux sans ballon d'Aaron Gordon sur la ligne de fond, il n'y en a quasiment pas. Ou alors il y a des rotations et ça force des passes supplémentaires. Et puis la pression qu'ils mettent à Jamal Murray, ils le prennent full court. Hein, quand je vois le dernier panier de Jamal Murray contre les Lakers, là, le panier de la gagne où il fait ce qu'il veut avec le ballon, il n'y a personne pour défendre.
C'est pas ça,
là, quand je vois McDaniels, quand je vois le cousin de Shai ou Walker Alexander, les pelés défensifs qui se mettent tout terrain sur Jamal Murray, qui annonce un système, mais bon, pour respirer, il est quasiment en apnée. C'est très très performant.
C'est bluffant ou pas? Parce que
si, oui, c'est bluffant. Mais Fred a raison de dire que
on pensait qu'ils allaient les embêter, mais pas les coups cassés comme ça.
Denver est moyen. Ça, ils sont pas à leur niveau. Même si Minnesota est très bon défensivement, ils peuvent être meilleurs que ça. Denver. Maintenant, la problématique, c'est que t'as perdu deux matchs chez toi, alors que t'en as perdu 8 sur toute la saison régulière. Tu étais à 0-2 avant d'aller à Minnesota et éventuellement sans ton meneur, parce que Jamal Murray, moi je vois pas comment il peut jouer le match 3 après avoir balancé un truc sur le terrain. Il a balancé un truc de...
Un truc de chauffant.
Il va être suspendu.
Ah oui.
Bah, je vois pas comment il pouvait échapper à ça.
Les arbitres n'ont pas vu, en fait, qui c'était. Ils ont juste retrouvé un pack chauffant au milieu du terrain pendant que ça jouait.
Mais il est filmé, il y a une image.
Ah oui, il y en a plusieurs.
Je pense que la NBA va sévir. Moi, je pense que Denver va passer à la moulinette.
En même temps, t'as vu la frustration affichée. Il conteste toutes les décisions.
Même le coach.
Le coach, t'as vu, à un moment, j'ai cru qu'il allait taper l'arbitre. Vraiment.
Il a rien eu, il a même pas eu technique. Non,
contre-tête.
Alors parfois, quand tu dis, je t'ai dunké dessus, tu prends technique.
Mais tu te rappelles la technique d'Anthony Edwards, qui a été annulée depuis, d'accord, mais quand même qu'il a pris pendant le match. Là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il siffle pas cette faute technique? Mais tu sens une équipe ultra frustrée qui n'arrive pas du tout à développer son jeu et qui est perdue. Et Jamal Murray, cette action-là où il jette son truc, c'est de la frustration pure.
Jojo.
Il faut savoir que les 80 points de cette nuit qu'a mis Denver, c'est le plus petit total de la saison régulière et play-off compris, Camille Denver. Donc offensivement, ils n'y arrivent pas. Et défensivement, pour répondre à ta question, qui peut arrêter Anthony Edwards? Je pense actuellement à Denver, il n'y a personne. Mais je me faisais une réflexion hier, juste avant la rencontre. Donc forcément, la rencontre a un peu bouleversé ce que je voulais dire.
À 3h30 du matin?
Je me disais, oui, absolument.
Bien sûr.
Je me disais, est-ce que la recette pour Denver, c'est pas juste de tout miser sur Anthony Edwards? On laisse les autres mettre des Poutos, on laisse Karl Anthony Towns s'en mettre.
Il y a des mecs qui mettent Karl Anthony Towns, il y a 60 cette année.
Exactement. Et en fait, après le match de cette nuit, et après le match de cette nuit, je me suis dit, mais en fait, Denver n'y arrivera pas. Parce que même si Edwards, il passe à côté, il en met entre guillemets que 15 ou 20, et ben il y a d'autres Lascar à côté qui vont en prendre. Et moi, je rejoins Stephen, je vois pas comment Denver peut s'en sortir. T'en perds deux à la maison face à cette jeune équipe qui prend du plaisir à défendre. Ils défendent en souriant, les gars. C'est la première fois que je vois des mecs qui kiffent défendre. À part John Lainouane en bête-triquet.
C'était pas moi, ça. Non, mais c'est surtout, pour moi, ce qui est impressionnant, c'est qu'Anthony Edwards est une superstar. Maintenant, je pense que c'est affiché et t'as plus besoin de le cacher. Sauf qu'il défend comme un chien. Il défend comme un chien. Et c'est là que c'est fort, cette équipe.
Comme un loup.
Comme un chien loup.
Ouais, comme un husky.
Non, mais concrètement, c'est incroyable de voir l'intensité qu'il peut mettre des deux côtés du terrain. Alors oui, il est très jeune, tu me diras. Sauf que toutes les superstars n'ont pas cette qualité. Et il pousse tout le monde à faire la même chose. Et vraiment, collectivement, c'est vraiment très impressionnant.
Mais la problématique de Denver, moi, ta question, c'est qui pour stopper
qui
Edwards
et les Wolves, Alors attention, la série n'est pas finie.
Non, hein,
parce qu'on a
fini,
des renversements, on en a vu. Il faut qu'ils prennent le prochain, parce que si à 3-0, ça va être
quand même
très compliqué.
Mais
ils en sont quand même capables.
Tu vois, Minnesota, maintenant, la pression, elle est sur qui? Si t'as obligation de gagner pour Denver, parce que la fameuse stat à 3-0, on la connaît tous. Hein, jamais une équipe est revenue de 3-0 en play-off. Mais après, si tu veux te projeter sur éventuellement, tu veux dire, bon, ils vont se qualifier. Après, c'est soit
OKC ou Dallas. C'est ce qui est une des deux équipes qui a un profil pour les battre.
je sais pas, moi, Lucas, je l'aime bien, Lucas, un exceptionnel joueur, mais manger ce que mange Jamal Murray ou Nikola Jokic, la différence des Mavs, c'est que le jeu, il est plus porté sur l'extérieur. Que Denver, il y a Jokic qui, alors même s'il est souvent au large pour orienter le jeu, il est aussi souvent sur du post-up, et c'est pas tout à fait le même style de jeu. C'est pour ça que je me dis que Boston, si Porzingis revient, ça peut être éventuellement une tâche plus compliquée, parce que les Rudy et les Karl Anthony Towns et les Nazrid vont devoir défendre au large, et la raquette va être un peu plus ouverte.
Mais limite, OKC, okay, si, c'est un peu le même truc.
Exactement.
Ils ont cette capacité à beaucoup jouer à 3 points et ça n'a pas mis dedans. Si Denver met dedans, ils ne peuvent plus faire la même défense.
Tout à fait.
Là, ça ne met pas dedans, donc ils peuvent s'adapter et vraiment fermer que la raquette. Contre OKC ou les Mavs, déjà,
ils auront plus de problèmes.
Ça sera plus dur.
C'est plus, si tu joues une équipe, si tu joues Boston a cette qualité de tir peu d'équipes ont en NBA, elle est là. Minnesota, pour fermer la raquette, ils ont tout ce qu'il faut en magasin. Ils ont des grands.
Donc Minnesota, c'est peut-être la kryptonite de Denver, en fait.
C'est pas possible.
Ouais. Okay. Et sans la gobe.
Et alors, si on se projette sur l'autre demi-finale, parce qu'il y a quand même un OKC Dallas qui est assez savoureux sur le papier, vous la voyez comment, un favori ou pas dans cette série, Geoffrey?
Moi, je mettrais Oklahoma, parce que j'ai pu voir un petit peu le premier tour de Dallas, et en fait, je suis désolé, malgré tout l'amour qu'on peut porter à Luka Doncic, en fait...
Attends, juste, ouais, spoiler alerte, tu as pété les plombs.
Voilà. En fait, Luka Doncic monopolise beaucoup trop le ballon.
Ah ouais, c'est une belle info que tu nous donnes là.
Oui, non mais en fait, je me disais, je sais qu'il garde beaucoup la gonfle ce garçon, mais sur le premier tour, je me suis aperçu que si lui, il tient pas le ballon 16 ou 17 secondes en attaque, Dallas offensivement, c'est le néant.
Ah non, il y a Kyrie, qui était le meilleur joueur de la série.
Hein, oui, d'accord.
Moi, c'est un plaisir, je me délève.
Kyrie Irving, c'est le meilleur joueur de la série.
Qu'il était le meilleur joueur de la série. Oui, d'accord, très bien, mais j'ai cru que tu étais en train de me dire, Kyrie, il est limite peut-être plus fort que Luka.
Bah sur la série, oui, il a été.
Oui, mais si on oublie...
J'ai pas honte de dire, Lucas, c'est mon amoureux, mais j'ai pas honte de dire que Kyrie, si les Mavs sont en demi-finale, c'est grâce à Kyrie, pas à Lucas. Lucas, il était mauvais.
Voilà.
Les pourcentages sont dramatiques. Alors, il boitille du genou, il est malade.
Il est bon sur le dernier. Il est plus intéressant.
Attends, il a 20% à 3 points, mais il a pas mis un tir. Mais Kyrie est exceptionnel. Après, cette équipe des Mavs, c'est les deux garçons qui font briller les autres. Maintenant, ils ont perdu Maxi Kleber. Ça va vous faire rigoler, peut-être, Maxi Kleber. Mais dans le dispositif de Dallas, Maxi Kleber, il est très important au large. Il fait la différence sur des tirs à 3 points contre les Clippers. Ne sous-estime pas l'impact de Luka Doncic, mais on se réveille pas en disant que Luka il dribble pendant 15 20 secondes et il fait des décalages.
Il a cette capacité lui, même s'il est pris à deux, de trouver les bonnes passes à chaque fois, et ça c'est très dangereux quand même. Mais je te rejoins sur un truc. Pour moi, c'est OKC un petit peu grâce à l'avantage du terrain, et parce que je trouve que quand t'as Shea, Chet, Jalen Williams, Lou Dort et Giddy au top, c'est génial.
Oui.
Franchement, au top, c'est génial.
Une équipe plus complète, tu veux dire ?
Leur 5, ce 5-là, il est incroyable, parce que c'est plus complet, bien sûr.
Et tu parlais de... Je disais que Kyrie était le meilleur joueur de la série. Ah, OK, si. Alors, vous allez me prendre pour un fou, mais pour moi, Jalen Williams, c'est le meilleur joueur de la série contre les Pelicans pour OKC. Hein.
Alors, moi, je te prends pas
tu
pour
as raison,
fou.
Stephen.
Mais même sur la saison, il y a des moments où Jalen Williams a été vraiment très, très fort.
Hein. Ouais.
Du coup, si on voit une finale
4-3.
Logique...
4-3 OKC. Mais ça fait mal au cœur de te le dire, quand même.
Et 4-1 Minnesota. Non, il ne va pas leur mettre un sweep,
si.
Quand même.
Non, il va leur faire un gentleman
4-1,
sweep.
4-1, 4-1.
Gentleman sweep, ouais. 4-1.
4-1, vous ne les voyez pas renverser la série des gens.
Alors 4-1, pourquoi ? Parce que j'ai vu qu'à Belgrade, fin mai, il y a une belle course. la pouliche de Jokic.
Méfiez-vous de Jokic quand même. C'est...
On s'en méfie.
Il peut sortir de la toile d'araignée de Minnesota, non ?
Sauf que le problème pour l'instant, tous les ballons qui ressortent, personne ne met dedans.
Il a eu une phrase terrible après le match 1. Il est interrogé sur qu'est-ce qui manquait à Denver pour gagner ce match. Il a répondu : j'ai besoin d'un double de moi-même.
Mais quand il dit ça, il a besoin de centimètres, il a besoin de grands. Ils n'ont pas de grands. Des Jordan, ne peut plus jouer au basket.
Plus du tout, hein.
Et eux, ils ont Nazri qui a 2-12, Lagob qui a 2-16 et Karl Anthony Towns qui a 2-12 aussi. C'est trop grand en fait. Et quand Jokic sort du terrain, alors il sort. Bon, le début de match est cata avec Jokic, hein, ils se font marcher dessus.
Oui, mais quand il sort,
mais c'est encore pire. Il n'y a personne, il n'y a pas de taille. Et elle est trop athlétique. McDaniels, il fait 2-2, 2-4, il joue sur les postes extérieurs. Et il manque de taille en fait. C'est pour ça que tu parlais Kryptonite, Minnesota, c'est trop grand pour Denver.
Basket Time spécial, donc demi-finale de conférence. Nous allons passer à l'Est.
Pacers Knicks series brings back lasting images of the 90s when the teams met 5 times.
Jalen Brunson from downtown. Jason runs the floor, set up by Siakam. No luck inside.
Turner on the receiving end from Halliburton. Top assist man of the NBA this year, Tyrese Halliburton. Halliburton, three-pointer flies and is good. And Siakam finds himself open in the corner, cashes one in. Brunson shifty, looking for contact. Brunson got it. Kicks it, DiVincenzo, three-pointer.
À l'est du nouveau avec les Pacers et les Knicks, les Cavaliers sont sortis de cette confrontation entre Cleveland et Orlando, qui n'était pas celle qu'on a regardée en premier quand même, on va pas non plus se mentir.
Il y a eu un Game 7, c'est là que c'est intéressant.
Ouais, mais le Game 7 n'était pas très intéressant puisque
personne a joué bien comme il faut.
Il y a eu une mi-temps pour le Magic, une mi-temps pour Cleveland et on a vite compris qui allait gagner le match.
Oui.
Alors, simplement, je vous pose deux questions. D'abord, quel est le potentiel de ces équipes qu'on n'attendait pas forcément, donc les Pacers et les Knicks. Et puis, est-ce que les Celtics sont seuls au monde dans cette conférence? Fred, déjà, New York-Indiana, est-ce que tu les voyais là?
New York, pourquoi pas? New York, pourquoi pas? Parce qu'ils ont
quand même sorti Philadelphie qui était costaud. Hein.
Oui, c'était costaud, mais Brunson est monstrueux et ça choque souvent quand même Philadelphie, je suis désolé. Donc, non, je suis pas vraiment surpris. L'avantage du terrain, tu finis deuxième.
Mais c'est quoi leur qualité en dehors de Brunson, cette équipe? Ils défendent dur?
Bah déjà, ils ont Brunson. C'est important. Ils ont Josh Hart qui a beaucoup de volume de jeu, capable de prendre des rebonds, de marquer des points, d'être hyper intense. Ils ont Hartenstein qu'on sous-estime mais qui fait un gros taf. Ils ont Anunoby qui est un 2-and-D excellent. C'est-à-dire qu'en gros, il est capable.
Le livreur de pizza aussi,
DiVincenzo. Oui, mais lui, il a été sur courant alternatif quand même contre les Sixers. Mais c'est vrai que quand il est bon, il est exceptionnel. Ouais, moi, je trouve que ça manque un petit peu de banc, mais et ça joue un peu trop de minutes.
Thibodeau, je crois qu'il est content de pas avoir de banc.
Oui bah, en même temps, lui. Il s'en fout.
Parce que petite plaisanterie, je pense que tous les mecs qui jouent là cette saison avec New York, je pense que dans deux ans, ils ont soit rupture des ligaments croisés, soit rupture du tendon d'Achille.
Fort possible. Josh Hart, 48 minutes.
C'est Simeon, quoi.
Josh Hart, il a encore joué 48 minutes là. Donc tu sais pas comment le mec tient avec cette intensité et ce volume.
Vous savez qu'on s'était engueulé par les fans des Knicks quand on avait fait pendant la saison régulière le spécial Knicks.
Ah, vous avez dit que j'étais pas là, mais je crois que vous avez dit qu'il jouait Thibodeau. C'est pas trop de rotation et tout
ce
ça.
Ce qui était vrai au moment où on le faisait, parce qu'ils étaient décimés par les blessures, et ce qui n'était pas tout à fait vrai sur la saison entière, parce qu'effectivement, quand il y avait plus de rotation, il utilisait ses joueurs.
Mais là,
sauf que là, on est sur les playoffs, et bon, on constate après, quand même.
Est-ce que tu sais combien de points a marqué le banc de New York là?
46,
3 points.
3 buts.
C'est énorme, ouais.
Après, donc à un moment, je veux bien qu'il fasse des rotations, mais pas tant que ça.
À la décharge de Thibs, il a perdu Bogdanovic qui pouvait jouer 15-16 minutes. Il a perdu. Ça a fait une rotation, même s'il n'a pas eu grande confiance en lui.
Mais en même temps, c'est pas vraiment une critique. Il arrive à amener son équipe là, mais force est de constater quand même qu'il ne fait pas beaucoup de rotations. Mais si ça gagne, bravo à lui.
Est-ce que tu es d'accord avec moi, Steve, pour dire qu'ils ont battu une équipe plus forte? Que Philadelphie semblait. Moi, j'ai pas vu tous les matchs, mais sur les bouts de matchs que j'ai vus,
c'était la plus belle série.
J'avais l'impression que Philadelphie allait finir par gagner.
Ouais, mais le problème, c'est que Philadelphie, il y a Tobias Harris. Hein.
Alors, Tobias Harris, c'est un joueur compliqué. À 30 millions et c'est vrai qu'il fait zéro but sur un match coup près, c'est compliqué, mais. Je sais pas si Philly était si fort que ça. Je sais pas si Joel Embiid était. Aussi proche d'être à son maximum. Moi, j'ai vu l'ombre de Embiid qui, au final, ses stats sont. C'est en faux semblant les stats, la série de Joel Embiid est en faux semblant parce qu'il n'y a pas d'impact dans les momentum. Il y a les quatrièmes cartons où il s'échappe, il y a ce tir qui ne prend pas à 0 degré après un système sur remise en jeu, il va faire un violet up en cherchant la faute
en
chialant comme il a fait toute sa vie en playoff et il n'a pas, pas eu la faute, mais cette équipe des Knicks, à l'image de Josh Hart, mec, elle a du cœur. J'ai rarement vu, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une équipe comme ça ne jamais abdiquer, ne jamais lâcher, parce qu'hier encore ça joue dans le quatrième carton parce qu'ils sont derrière.
Ils ont chaud, hein.
Mais ils ont chaud.
De 4 points, mais contre Indiana, il y a pas de marge contre Indiana.
Non, il y a pas de marge. Et on a loué depuis tout à l'heure les qualités des Knicks, mais je pense que l'effectif d'Indiana sur les playoffs, le problème d'Indiana, c'est que cette équipe, elle n'arrive pas à jouer demi-terrain. En fait, il faut qu'il y ait du rythme, il faut que ça court, il faut qu'Haliburton puisse envoyer des cavières sur contre-attaque. Et là, New York met une telle pression défensive qu'il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. On parlait de Minnesota tout à l'heure qui défend tout terrain sur Denver. Et ben New York, c'est pareil. Indiana, c'est pour moi, même si c'est la meilleure équipe offensive de la saison régulière avec 123 points marqués, hier ils en mettent 117. Mais pour moi, c'est un exploit parce que offensivement, tu as des joueurs individuellement qui sont très très forts. Mais la pression que leur fait subir tous les joueurs qu'on a cités des Knicks, c'est impressionnant. Et je pense que sur demi-terrain, ils n'ont pas cette qualité, ce QI basket pour répondre à la défense des Knicks.
Mais le problème, c'est Haliburton. Le problème, c'est Ali Burton.
Alors, il a mis que 6 points pour le premier match.
Alors, c'est pas, alors,
il
c'est
a
pas, que ça.
Pas beaucoup shooté.
En fait,
hein.
Le problème, mais c'est pas une menace. Et donc, à partir du moment où t'es pas une menace, pour faire des passes, pour faire jouer ton équipe sur demi-terrain, c'est plus compliqué.
Tu dois faire défendre Brunson.
Ben oui.
Tu dois faire défendre Brunson.
Mais il est en repos, là. Il est en vacances sur Ali Burton.
Donc, il a du jus pour encore mettre 40. C'est la quatrième fois de suite qu'il met 40 points. Où il fait une campagne de play-off, Charles Brunson, gros solide. Hein.
Charles Brunson.
très fort.
Je me trompe ou son premier match, il met 39.
Son premier match où
sur cette série de 4, il a 4 matchs à plus de 40 et le match d'avant, je crois qu'il met 39.
En fait, il démarre très mal face à Philly où il est très moyen sur les pourcentages et après il est parti comme une trombe. Mais moi, je voyais New York dans le dur face à cette série, c'est à l'intérieur. Je voyais pas
capable
de tenir Miles Turner et Pascal Siakam sur le poste 4. On sait qu'ils sont un peu démunis. OG Anunoby, en plus, c'est deux anciens collègues, hein, ils ont joué plus de 400 matchs ensemble, Siakam et Anunoby à Toronto. Je trouve Anunoby sous-dimensionné en taille. Finalement, pour l'instant, ça tient. Et puis, tu as des soutiers, tu l'as dit, l'allemand Hartenstein. Mec, gros, il régale. Je pense que ça va être. Alors, Brunson est au-dessus, mais joueur chouchou du Garden, Hartenstein. Je pense qu'il y a des gens qui vont acheter son maillot.
Pourquoi c'est quoi le.
Franchement, moi, je le veux.
Le style du gars.
Le style du gars, gaucher, grand. Alors, très bonne main, mais surtout, plonge sur les ballons, va au rebond offensif, va taper des balles pour avoir des deuxièmes chances. Mets la tête là où personne ne mettrait les mains. Toujours dans les bonnes fenêtres de passe, finition avec sa petite main gauche, là, sa petite patte gauche. Il fait du bien. Il est passé devant Precious Achiuwa dans la rotation. Il est starter. Mitchell Robinson qui est revenu joue quasiment plus parce que Hartenstein est dans le truc. Et puis bon, Tibbs, quand ça marche, il connaît pas le geste. Il connaît
mais
pas
dis-moi la croix. Nous, on chauffe sur les JO, mais l'Allemagne, ça va être dur à
prendre. Mais il n'est pas sûr qu'il y soit.
Hartenstein, pas sûr qu'il y soit. Parce qu'il ne se considère pas vraiment. Il a pas la fibre. Il a pas la fibre très allemande.
Américain.
Et puis il y avait.
Allemand.
Il y avait une espèce de gentleman agreement sur la sélection en disant. Tu sais, sur un espèce de programme de 3-4 ans où les mecs sont tous là et lui, il n'a jamais fait les campagnes précédentes.
Donc, je ne vois pas
le débarquer comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sur la langue. Sur la soupe.
Sur la langue, c'est quand tu dois.
Je vais dire un mot quand même de Haliburton parce que c'est quand même un joueur qui a fait beaucoup de bien à cette franchise d'Indiana, qui leur a permis de viser haut. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu limité quand même?
Il a démarré très fort.
Est-ce que là où Brunson a fait péter son plafond de verre, est-ce que Haliburton en est capable?
Ben, honnêtement, je suis dans le doute par rapport à ce joueur. Déjà, quand t'es un joueur qui fait beaucoup de passes, qui est quand même très bon passeur, qui peut pas mettre un shoot, bah ça complique la tâche.
Alors Fred, je te reprends là-dessus, il a 40% 3 points.
Oui, non, mais je veux dire qu'il en prend pas beaucoup. Qui peut pas prendre un shoot, c'est-à-dire qu'il a du mal à se le créer, pas qu'il qui rate.
Sur le premier match, il est à 2 sur 6, ben, c'est pas possible.
Il n'y a pas assez de volume de offensif, j'ai envie de dire. Il se contente de passer le ballon, mais c'est pas suffisant.
Après, c'est dur de comparer Haliburton et Brunson. C'est pas le même style de jeu.
Brunson, on pouvait avoir les mêmes doutes que pour Haliburton. Savoir est-ce qu'il peut être niveau All-Star régulier. Bon, là, il est en train de le prouver quand même. Haliburton l'a pas prouvé pour le moment.
Alors
qu'il était All-Star.
Ouais. Et que, justement, juste après All-Star, la deuxième partie de saison est très moyenne. Alors, il se blesse, mais il a du mal.
Il y a Siakam qui arrive aussi. Donc ça rebat les cartes un peu.
Après, Haliburton, juste avant le All-Star, quand il enquillait les perfs à plus de 20 points, 20 passes, il y a eu un moment, il y a eu une discussion. Est-ce qu'il est potentiellement candidat au MVP? Et depuis, il y a eu le All-Star break, il s'est blessé. Ouais, il n'arrive pas à revenir. Et en fait, si lui, il ne prend pas ses responsabilités offensives, bon, de toute façon, il en prend très peu. Qui pour les prendre à Indiana? Personne.
Un petit tour de table, qui vous voyez remporter cette série? Elle est quand même pas facile à pronostiquer parce que New York a des failles. Hein. New York, ils sont pas toujours dans les matchs dominants. Hein.
Non, ils ont souvent été menés, même contre les Sixers. Oui. Hein. Je sais pas pourquoi, un match 7 me paraît cohérent au Garden.
Au Garden, donc peut-être avantage New York quand même.
Oui.
Ah, et Geoffrey?
4 de New York.
4 de New York et Fred.
Ah, j'allais dire pareil que Geoffrey, donc je vais changer finalement. Non, 4 de New York.
Ok, l'autre série, elle est réglée avant.
On va en parler de l'autre série ou pas?
Avant le premier match ou pas? Boston-Cleveland.
Moi j'ai vu Game 7 contre Orlando, mais si tu m'avais dit que les Cavs allaient partir en match 7 contre une équipe du Magic comme ça, où la moitié des garçons d'Orlando, ils n'ont même pas eu leur première relation sexuelle, c'est très mauvais.
Après, Polo, très mauvais. Banquero, je ne sais pas s'il a eu de relations sexuelles, en tout cas des relations basket, il en a, et c'est quand même un joueur impressionnant. Hein. Physiquement,
il est quand même costaud.
Il a de l'avenir quand même, non?
Oui, mais d'ailleurs il l'a dit, Donovan Mitchell, après le match, il dit Polo Banquero est le futur.
Donovan Mitchell, quelle grande bouche, non? Bah, non mais le mec sort de cette série, il dit nous on est là pour gagner, on est là, cette équipe a été construite pour être champion, mec. Oh, regarde, oh. Je sais pas, moi, ça m'a choqué.
Non, alors, attends,
il arrive sur Boston.
Je suis d'accord.
S'il gagne, c'est un miracle.
Je suis d'accord.
Il ouvre sa grande gamelle, mais il faut jamais faire ça.
Mais lui, il est comme ça, il se motive comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire?
Après, Pierrot, moi, j'ai envie de donner un peu de crédit à Donovan Mitchell parce que si.
Bon joueur, grand joueur.
Si Cleveland joue Boston, c'est parce que Donovan Mitchell a été exceptionnel sur cette série et sur la fin. Parce que quand il met 50, alors certes, il perd, mais s'il met pas 50 points, il perd encore de 25. Parce qu'ils vont deux fois à Orlando, ils prennent 40 points, ils prennent 80 points en cumulé en écart quand ils sont à Orlando. C'est la. Et la problématique de Cleveland, elle est là. C'est que si Donovan Mitchell ne fait pas un match de mutant, ils n'existent pas en fait.
Bah parce que Garland n'est pas dans le coup.
Garland, lui, il n'existe qu'à Noël.
On était assez dithyrambiques sur leurs intérieurs. Il y a deux ans, je pense qu'ils sont révélés.
Garland, il n'a pas joué
les trois derniers matchs.
Mais
Mobley vous déçoit ou pas?
C'est le meilleur contreur. Des playoffs.
Ouais, mais c'est inoffensif. Il met 11 points, il prend 4-5 tirs. C'est pas une menace.
C'est pas une menace offensive, mais il prend des rebonds. Il contrôle un petit peu, mais je suis d'accord, Mitchell
il est solo en fait. Alors t'as des mecs, t'as Okoro,
t'as Levert qui parfois peut sortir du bois aussi.
T'as Meryl Streep là, qui sort du bois, mais
Meryl Streep, un gros septième match.
Mais c'est pas des mecs qui t'emmènent. Boston, ils vont jouer une équipe de mutants.
Donc cette série elle est réglée.
Oui.
Je sais pas parce que Boston ils ont quand même beaucoup de matos pour défendre sur Donovan Mitchell entre Jrue Holiday, entre Derek White. Jalen Brown peut défendre aussi sur Donovan Mitchell.
Ça peut,
hein. Donovan Mitchell, j'espère qu'il va prendre 3-11 ans avant chaque match.
Est-ce que Donovan Mitchell, et ça va peut-être être une énorme connerie que je vais dire.
Mais ne le dis pas alors. Ne le dis pas.
Ne t'excuse pas avant de parler, voilà, Geoffrey.
On a parlé d'Anthony Edwards et de ses talents offensifs actuels.
Est-ce que Donovan Mitchell
n'est pas actuellement le meilleur joueur pour mettre des puntos dans la ligue? Non mais vraiment.
Alors Luka Doncic, Anthony Edwards,
Jus Alexander.
C'est une vraie. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas Donovan Mitchell, il faut.
Moi j'aime beaucoup.
Voilà.
Moi j'aime pas du tout.
J'aime beaucoup la qualité du joueur. Je l'ai vu à Paris. C'était la seule attraction du match à Paris. Ça a été Donovan Mitchell. Non, mais il a été fantastique.
Le gars tire à 8 mètres. Le gars a des qualités athlétiques de ouf. Le gars est capable d'aller mettre des tomards de l'espace dans la peinture. Il a quand même.
Ouais, mais c'est trop comme ça.
Ouais,
je te rappelle sa campagne de playoff l'année dernière.
Non, merci, ça ira.
Non, c'est ce qu'on lui reproche, hein, c'est de ne pas toujours être présent.
C'est la première équipe à avoir gagné une série de playoffs depuis les Bronze. Donc bravo pour ça.
Champion à l'Est.
Ouais, moi, je vois pas
aucune des trois équipes peuvent les embêter.
Donc je pense pas.
Très bien. Donc on a une finale Boston. Minnesota, ce serait moche. Non, ce serait pas moche, mais c'est mérité comme ça.
Je vais te poser une question, Pierrot.
Ouais.
Toi, l'amour du basket, Pierrot, le français.
Qui n'est pas l'équipe préférée en NBA.
Qui n'est pas l'équipe préférée. Ouais. Est-ce que tu souhaites que Rudy Gobert aille le plus loin possible?
Alors, ce serait pas forcément très bon pour l'équipe de France.
C'est pour ça ma question.
Mais comme c'est un joueur décrié aux États-Unis, ça ne me déplairait pas qu'il ait une bague, tu vois. Vraiment.
Et si jamais il est champion qui dit je suis trop cramé, je peux pas venir avec l'équipe de France?
Il fera pas ça. Il viendra, il sera cramé, il sera peut-être pas bon, mais il viendra. Je pense qu'il viendra.
Avec une bague, il pourrait fermer les bouches quand même.
Avec son enfant.
Par contre, tu sais que j'adore Jason Tatum, donc s'il perd en finale contre Boston, ce sera pas.
T'as pas l'équipe préférée, mais t'as des joueurs préférés.
Ouais. Non, mais tu sais, avoir une équipe. Moi, j'ai une équipe, c'est le PSG, donc je sais que ça se reproduit dans aucun autre domaine. Donc j'aime bien des équipes en NBA, oui. Dire que je suis supporter, jamais de la vie. C'est pas
mais
ça
quel est le joueur qui te fait kiffer actuellement?
En ce moment, c'est Jason Tatum. J'adore son style.
Jamorant
est exceptionnel. Moi, mais là, bon, il est bon. Je sais même pas si.
Jason Tatum, c'est ton joueur préféré?
J'adore. Je le trouve gracieux. Je trouve beau, tu vois.
Jamorant, il a la santé là, si tu veux le voir.
Jamorant, c'est dans la génération actuelle le joueur qui me fait le plus penser à Baron Davis que j'adorais. Mais j'ai peur pour Jamorant que la suite soit triste. Hein.
Il a changé d'agent. Je crois qu'il a pris Mike Miller comme agent, qui est censé le recadrer un petit peu, le remettre sur le
droit chemin, l'ancien shooter. Il a forcément besoin de ça.
On va revenir à notre sujet, les demi-finales de conférence et les récompenses de fin de saison. C'est la partie historique où on reparle de Victor Wembanyama.
2024 Rookie of the Year goes to Victor Wembanyama of the San Antonio Spurs.
Well done.
I mean, my goals were always to help my team as best as I could. In order to do this, I have to be individually good on the court and dominant.
Yes. Ain't no way.
Wembanyama deep three, got it from nearly the logo. Victor Wembanyama
blocked by Wemby.
Get it out of here!
That was absolutely spectacular.
Congratulations to you, man.
Rookie of the Year.
Welcome to that Rookie of the Year club.
Yes. Oh, Mama Wembanyama!
Victor Wembanyama, all 99 first place votes.
Unicorn! Stop it! Stop this!
Alors Victor Wembanyama, donc élu rookie de l'année à l'unanimité. On va y revenir. Je fais juste une toute petite parenthèse parce que là, j'ai un truc qui m'a choqué en fait. C'est, t'aimes pas Tatum parce que c'est un joueur de Boston, rassure-moi, juste parce qu'il est de Boston.
Je sais pas. Peut-être. Non. Peut-être que c'est l'imaginaire qui me fait dire qu'il n'aime pas Tatum. Mais...
Ouais, alors ça, ok, ça peut être une explication.
Peut-être qu'il s'appelle Jason aussi.
Mais après, non, des prénoms de merde,
il n'y a pas un méchant dans un film d'horreur qui s'appelle Jason.
C'est justement Jason. Ouais.
Bon, alors, élu à l'unanimité, c'est très rare. Hein. Ils ne sont que 6. Les autres sont Ralph Sampson, David Robinson, Blake Griffin, Damian Lillard et Karl Anthony Towns.
J'avais révisé, je pensais que c'était des questions du quiz.
Non, c'est pas une question du quiz. Alors, il y aura une question tirée de cette liste dans le quiz à un moment, mais tu verras bien, mais c'est pas une question du quiz. Alors, c'est vrai que ça veut dire qu'il faut ultra dominer une saison. Blake Griffin, on s'en souvient, c'était assez incroyable. Karl Anthony Towns, je m'en souviens pas moi personnellement, oui, mais solide. Il avait fait des débuts incroyables. Est-ce que il sera MVP un jour. Je ne vais pas vous demander si c'est le rookie of all time, parce qu'on l'a fait ce débat il n'y a pas longtemps. C'était un très bon débat d'ailleurs. On avait parlé de Magic Johnson, d'autres. Est-ce que vous le voyez à coup sûr, dans sa progression, aller jusqu'à la récompense suprême de MVP, Fred?
Oui. Moi, oui, bien sûr, parce qu'à chaque fois, on lui fixe des limites. On se dit que ça serait compliqué, la transition entre la Pro A et la NBA. Finalement, ces chiffres sont similaires et qu'il joue très peu, finalement. Du côté de San Antonio. Moi, je pense qu'il va continuer à progresser, il va continuer à faire des statistiques folles, il va continuer à marquer les esprits, il va être encore meilleur contre eux.
Il va faire gagner San Antonio.
Et voilà, c'est ça. C'est ça le seul bémol et la seule chose sur laquelle tu peux hésiter sur le fait qu'il soit MVP, c'est qu'il faut que son équipe figure bien. Alors, je ne vais pas dire gagner forcément, mais au moins soit dans le top 4-5 de l'Ouest. Mais... Et à partir de là, tu pourras discuter.
Est-ce que vous ne croyez pas que Victor Wembanyama est si particulier, si unique, que avec les chiffres qu'il va produire, il ne serait pas capable d'être élu MVP avec des résultats collectifs moyens?
Par un trou de souris.
Oui,
par un trou de souris. Alors
sur
une saison moyenne où les Spurs sont à 40 victoires et que lui, il te fait une saison à 32, 12, 4 contre ennemi, 20 triple-doubles dans la saison. Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ouais, mais tu sais que c'est pas très culturel quand même pour
les Américains. Je sais bien, mais le problème, c'est il va faire des choses que peut-être qu'il n'a jamais été vu.
C'est possible.
Donc peut-être que je me dis que c'est pour ça que le titre de MVP, je suis convaincu qu'il sera MVP.
Ah, mais c'est convaincu qu'il sera MVP.
Je suis convaincu qu'il sera MVP. Je suis convaincu que les Spurs vont monter une bonne équipe, ou, et s'ils n'y arrivent pas, il y aura dans une équipe meilleure qui jouera et qui fera des campagnes de play-off.
Ah ouais? De quoi? Tu imagines pouvoir quitter les Spurs?
Je suis convaincu que Victor Wembanyama va jouer les play-offs pendant 10, 12, 15 ans. Donc si c'est pas avec les Spurs, ça sera avec quelqu'un d'autre. Parce que j'imagine pas ce garçon faire sa vie ou faire 3, 4 ans sans jamais jouer une campagne de play-offs. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Il connaît le chemin. Il a vu ses prédécesseurs, les LeBron James, les Luka Doncic, les Kevin Durant, qui peut-être n'ont pas fait les play-offs au début, mais qui ensuite, LeBron, il a pu louper les play-offs depuis 15 ans. Donc il sait ce qu'il doit faire. Mais je le vois MVP. Je le vois tout en fait. Défenseur de l'année à multiples reprises. Je le vois ne plus louper. Je pense que cette saison sera le seul All-Star Game qu'il a loupé. Il sera All-Star jusqu'à la fin de sa vie. Il sera meilleur contreur. Je sais pas, 10 fois.
En play-off l'an prochain.
J'attends de voir ce qu'on va faire San Antonio.
Pour répondre à ta question, Pierre, est-ce qu'il va être MVP un jour? Oui, bien évidemment. À court, moyen ou long terme, il le sera. Après.
Plutôt à court, moyen ou long terme, tu penses?
T'as réfléchi à ça hier soir?
Moyen, parce que comme on a dit, le gros bémol quand même, c'est les résultats collectifs des Spurs, donc il va encore faire plusieurs années à San Antonio, forcément. Et pour répondre à Steve, oui, potentiellement, moi je le vois bien devenir MVP, mais il faut quand même que son... même si les résultats des Spurs sont pas bons, mais il faut quand même que sa franchise aille en playoff pour qu'il soit élu MVP. Moi j'ai beaucoup de mal à imaginer les Américains voter pour un mec MVP de la saison régulière alors que le gonze en question ne fait pas les playoffs.
Pour moi, t'es pas top 6 à l'Ouest, quelles que soient les statistiques qu'il va produire, pour moi t'es pas MVP.
Je pense qu'il peut bouleverser cette vision des choses par les chiffres en fait.
Ah mais moi je le souhaite, mais en plus je souhaite surtout que San Antonio progresse et soit dans le top 6. Mais j'ai peur parce que c'est vraiment très ancré chez les Américains, ça.
Oui, après attention, il va faire face à une concurrence, notamment
Anthony Edwards
avec Minnesota, où les Wolves sont censés être top 3 à l'Ouest chaque année. Shai, qui est encore très jeune. Luca, qui n'a toujours pas été MVP.
Jason Tatum, on sait jamais.
Il le sera un jour, peut-être.
Jason Tatum, qui n'a toujours pas été MVP. Luca, qui n'a pas été MVP, donc il va faire face à une concurrence. Donc il va falloir faire des choses hors normes. Mais tu as raison qu'il va y avoir il faut une amélioration des résultats. Là, il faut que d'ici deux ans, les Spurs soient à 42 ou 44 victoires pour prétendre
au titre de MVP. Pour marquer la différence déjà, parce que quand tu as un joueur de ce calibre qui arrive et que tu ne progresses pas énormément dans ton équipe, bah, moi, tu vas te poser des questions. Donc la première année, c'est normal, l'adaptation, etc. Sauf que la deuxième année, déjà, il faut que les résultats commencent à progresser.
Toi, tu vois un MVP à la Russell Westbrook avec ses triple-doubles. Genre, s'il commence à faire des quadruples-doubles, des trucs incroyables qui n'ont jamais été vus régulièrement.
Exactement. Cette saison, il a fait des choses jamais vues pour un rookie.
Être à 5 contre de moyenne.
Exactement.
Et, comme ça,
mais pourquoi pas être à 30 points, 12 rebonds, 5 contre, 4 interceptions, 4 passes et demi, des choses qui n'ont jamais été faites pour un mec de 2m24. 5 ballons perdus aussi, ça peut arriver. Mais
voilà, alors, si on se remet sur le court terme, il faut améliorer cette équipe. Alors déjà, il faut trouver un meneur, non ? Un meneur de très haut niveau. Il y avait à un moment la solution Mike Conley, mais je crois qu'il a prolongé.
Il va pas passer de Minnesota.
Ah non, mais il est trop bien là.
Il était en fin de contrat, donc la question se posait.
Trae Young, on parle beaucoup de Trae Young.
Est-ce que vraiment c'est un joueur suffisamment collectif ?
Alors j'aime pas le joueur, je suis pas fan du joueur, mais tu mets Trae Young aux Spurs, l'équipe s'améliore énormément.
Oui, mais est-ce que Popovich coach un Trae Young ? Enfin, tu vois, c'est quand même un joueur qui est déjà une superstar.
Il fait des passes, il a une vraie qualité de passe, mine de rien, Trae Young. Donc la relation Trae Young,
Wembanyama,
sur pick and roll, si tu ne défends pas sur lui, bah, tu prends des bombinettes à 3 points. Mais après, le problème, il y a le.
C'est un croqueur quand même, non ?
Oui, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux passer ta vie à Atlanta ? Alors même s'ils ont eu une très belle campagne de playoff quand ils pètent les Knicks au Garden, ils font le petit salut au milieu de terrain. Mais depuis, c'est la déchéance à Atlanta. Ils ont fait venir des jeunes Temeray. Ça marche pas. Donc qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux être un croqueur dans une équipe qui ne gagne pas un match ou tu vas aller à San Antonio avec le futur meilleur joueur de la Ligue et espérer créer quelque chose, une vraie connexion.
De toute façon, tu vas à San Antonio, tu sais que tu n'es plus numéro 1. Il n'y aura plus d'autres numéro 1 que Victor Wembanyama. Donc si tu vas là-bas,
t'es
lieutenant et c'est tout en fait.
Et tu la fermes.
Et lui,
il la fermera pas. Il va chauffer Luca, il va chauffer
Oui, mais qui chauffe les autres, c'est pas grave. À l'intérieur, il ne faut pas que ça explose. C'est ça le truc.
Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre dans cette équipe ?
On pensait à quelque chose hier soir.
À 3h15, on pense à quoi ?
Après, on pense vraiment à bouffer déjà des cookies avant l'NBA tranquille et puis ensuite on s'endort quoi, tranquillement.
D'accord. Non mais pour les Spurs, tu vas répondre quand même. Hein, qu'est-ce qu'il faut à cette équipe ?
Contre, ça live, quoi.
Non mais il faut bien évidemment un meneur et je crois que Trae Young, on m'a rapporté ça. Il a mis un post Instagram il y a quelques jours avec une petite boule noire, une petite boule blanche en mode les Spurs. Peut-être j'arrive.
Il joue aux dames.
Il était tous.
Ou au jeu de go. Ouais,
j'ai tout faux alors.
Non mais c'est un post Instagram. Ah oui, maintenant c'est comme ça. Hein. Tu fais
attention,
Kylian
Mbappé a unfollow le Paris Saint-Germain.
Vous vous souvenez tous les débats qu'occasionnaient les posts mystérieux de Karim Benzema. C'est dingue. Ah oui.
C'était les énigmes du parfois. Il fallait deviner des trucs.
Ok. Dernière question, rookie of all time ou pas ? Il y a Magic hein, quand même, champion de sa première année.
Il n'y a pas que Magic, il y a plein de joueurs. En fait, non, tu ne peux pas comparer les époques et il y a un pace qui est différent.
Si tu peux les époques, c'est ce qu'on fait tous les mardis dans cette
Oui, mais c'est pas parce que tu nous le demandes que tu peux le faire en fait.
C'est la partie historique, je te rappelle.
J'y ai beaucoup réfléchi, on m'a posé la question assez souvent et j'arrive pas à comparer en fait. Will Chamberlain, tu le mets où dans ça ? Karim Abdul-Jabbar, tu le mets où dans ça ? David Robinson, enfin tu vois ce que je veux dire ? Il y a eu des saisons. Tim Duncan aussi, mais David Robinson a fait une saison. À l'unanimité comme Victor. Donc, franchement, c'est impossible à dire. Ouais. En tout cas, il est dans ce Gotha. D'ailleurs, on l'a vu, cette publicité hein, pour la marque Fanatics, où justement, il y a toutes les stars qui parlent de lui comme un d'entre eux. Mm-hmm. Donc, pour moi, il est déjà un d'entre eux. Mais, c'est des Hall of Famers, les autres. Donc,
ce qu'a fait Magic me paraît quand même compliqué à détrôner, être rookie de l'année, MVP des finales et champion NBA.
Il n'est pas rookie de l'année.
Il n'est pas rookie de l'année, c'est
Larry Bird. Non, c'est
Larry Bird. Mais il est MVP des finales.
Oui, bien sûr.
En jouant pivot, alors certes, l'équipe est énorme, il y a Karim Abdul-Jabbar, mais c'est champion NBA directement dans rookie, avec un rôle majeur, c'est difficile à combattre. Mais après, il est tout là-haut. Il a fait mieux que LeBron, il a fait mieux que Luka, il a fait mieux que Durant en termes de chiffres. Donc c'est une saison rookie hors norme.
Ce basket time va se terminer comme chaque semaine par le quiz.
RMC Basket Time. Basket Time.
Tie game with 5 seconds remaining.
Stephen, là, j'ai rien compris.
Pas en quiz cette émission.
Booba.
C'était trop facile puisque les paroles, c'est Booba, le petit ourson. Il y avait une deuxième question.
Chantal
Goya, c'est la bonne réponse. Alors c'est parti pour le quiz spécial demi-finale de conférence.
C'est une nouveauté.
C'est un nouveau jingle, bravo, parce qu'on a bien les nouveaux jingles, plus courts, oui.
Mais
moins péchu.
Non, bien punchy.
Plus punchy. Ouais, j'ai bien aimé.
Bravo.
Il y aura un blind test dans ce quiz, mais on va démarrer vraiment calme sur l'actu, des trucs basiques. Un par un, chacun votre tour, vous allez me donner les noms
des joueurs sélectionnés par Team USA qui ne sont plus en course pour le titre. Vous répondez chacun votre tour un nom. À chaque bonne réponse, je vous donne un point. Et si vous chutez, je continue sans vous. C'est clair ?
Net,
c'est pas clair.
Et précis.
On va commencer par Geoffrey parce qu'il m'a l'air en désespérance.
Et non, mais parce que je sais qu'il y a plus qu'un joueur.
Les joueurs sélectionnés.
Il n'y a plus qu'un joueur qui est sélectionné pour les Jeux de Paris 2024 qui est encore en course dans ses playoffs.
N'importe quoi. Déjà, tu fais un HS complet.
Kevin Durant.
Alors, tu dis Kevin Durant.
Oui.
C'est bon.
Il n'y en a plus qu'un.
Allez,
encore en
non, mais c'est bon. Allez, il n'a pas compris. Kevin Durant, c'est bon.
Merci, Steve.
Fred.
Joel Embiid.
Joel Embiid, c'est bon. Steve.
Stephen.
Steph Curry, c'est bon. Geoffrey.
LeBron James.
LeBron, il faut dire.
LeBron
James, c'est bon.
Kawhi.
Kawhi, c'est bon.
Kawhi, c'est bon.
Steve.
Bam Adebayo.
Bam Adebayo, c'est bon. On va s'arrêter là parce qu'il n'y en a plus que deux. Et vous êtes trois, donc je ne vais pas déséquilibrer le quiz d'entrée de jeu. Les deux sont...
Anthony Davis.
Et... J'aurais pu continuer avec... Je savais que je pouvais le baiser.
Anthony Davis.
Et
Devin Booker.
Exactement.
Devin Booker.
Ah, c'est bien, vous avez deux points chacun pour démarrer, ça vous met en confiance.
Par contre, on peut revenir sur la phrase de Geoffrey.
Je me suis remêlé les pinceaux.
J'ai rien compris.
Mais non, mais en fait, je sais, il n'y a que Anthony Edwards qui a fait partie de l'aventure du mondial en 2019 qui est repris pour les Jeux Olympiques de 2024.
Ouais, le mec, ça n'a rien à voir.
Voilà. Il a compliqué le truc.
Encore sujet, hors sujet, zéro.
Vous pouvez lui enlever des points.
Vous repasserez au rattrapage.
Merci Pierre.
Après 3h du matin, il s'est couché à 5h.
Le jeu préféré de Fred Weiss, je vous donne une déclaration et vous devez m'en trouver l'auteur. Qui a déclaré récemment, là, lors de ses playoffs, « Get the fuck out of my face ».
Talisa Halliburton.
Exactement. À qui a dit
à Damien Lillard
à Damien
ou
Lillard.
Bobby Portis, ils sont brouillés à la fin.
Et Bobby Portis est venu à sa rescousse et il est venu dire « Ne viens pas me chauffer ». Et après, il s'est fait traiter de bitch par toute l'équipe de Milwaukee. C'est ça aussi Talisa Halliburton.
C'est bien, moi j'aime bien.
Je sais pas, les fans des Pacers apprécient le garçon pour ça aussi.
Et sachant qu'après, sur le banc des Pacers, il y avait James Johnson sur le banc qui disait à Bobby Portis, je vais te niquer. Alors, il faut savoir que James Johnson est ceinture noire d'un art martial très dangereux. C'est le seul joueur où personne ne veut se battre avec.
Question très simple. Qui est le meilleur rebondeur de ces playoffs?
C'est bien ça. C'est Nikola Jokic.
Mais non, justement, il est deuxième.
Josh Hart?
Non.
Le meilleur rebondeur de ses playoffs.
De ses playoffs, hein, pas de ses demi-finales.
Rudy
Gobert.
Anthony Davis. 15,6.
Bravo Fred.
En plus de rebonds que notre ami Jokic.
On est en vacances, lui.
Alors là, attention. J'espère que vous avez bossé vos rookies de l'année. Là, il y a une série de questions sur le rookie de l'année. D'abord, Fred, tu l'as évoqué tout à l'heure. Il y a cette vidéo géniale.
C'est
lui le rookie de l'année ?
Non, c'est la question pour Fred.
C'est pour tout le monde. Non, mais Fred vient d'en parler. La vidéo de Fanatics, qui est donc une sorte d'équipe entière de la NBA pour tout ce qui est produits dérivés, etc., qui a fait une très belle vidéo.
Elle est magnifique.
De Victor qui arrive dans une salle où tous les anciens rookies de l'année s'adressent à lui. OK ? Donc vous allez les écouter et vous devez les reconnaître. C'est très simple. C'est ça. Non, c'est pas le blind test. Ça, c'est pour voir si vous connaissez les voix des grandes légendes de la NBA.
On écoute les trois d'un coup ?
Mais non, une par une, gros.
Un par un, très bien.
High expectations, you met all the expectations.
Ça, c'est le Shaq. Là, on la reconnaît quand même. C'est le Shaq. Bravo, Fred, tu prends la tête avec 4 points. Deuxième extrait.
Continue to work on your career.
Ça, c'est Allen Iverson. On connaît aussi cette petite voix un peu nasillarde. Elle écoute un peu Allen Iverson.
T'as fumé trop de blunt, Allen. Vous allez la voir nasillarde.
Et troisième extrait.
Yo, what's up, Wemby?
LeBron,
congratulations to you, man.
Wemby.
On écoute en entier, LeBron. You
keep getting better. Want to say congratulations to you, man. Rookie of the year, well deserved. And this is just the beginning. Love, bro.
Love, bro.
Je t'aime.
Je vous ai mis des voix reconnaissables et vous m'avez pas déçu parce que ça aurait été plus dur peut-être avec David Robinson, Vince Carter et je ne sais qui encore, Jason Kidd, non?
De toute façon, s'il y avait une autre question, j'aurais dit Vince Carter une troisième fois. Donc,
Alors, le score, c'est 4 points pour Fred, 4 points pour Steve et 3 points pour Geoffrey. Un vrai ou faux, chacun votre tour. Je vous donne un nom et vous me dites si oui ou non, il a été rookie de l'année. Le trophée existe depuis 1953. Ok, on démarre avec Geoffrey.
Oui.
Charles Barkley a été rookie de l'année.
Charles Barkley.
C'est vrai ou c'est faux?
Je pense que c'est véridique.
C'est faux.
C'est faux.
C'était Hakeem Olajuwon.
C'est faux. C'est
rookie
faux.
De l'année. Ok, Geoffrey, tu marques pas ton point.
Mais non.
Fred, Gary Payton a été rookie de l'année. Gary Payton, il est
faux.
C'est faux, c'était Derek Coleman en 90. Et enfin, Steve, Dwight Howard a été rookie de l'année. Dwight, le grand Dwight. Mmh. Hein, il me regarde avec un petit sourire parce qu'il hésite aussi. Hein.
C'est vrai.
C'est faux, c'est Emeka Okafor.
Ah putain, l'arnaque.
En 2004. C'est la grosse arnaque. Donc Fred prend la main. Et enfin, vous allez me dire qui a été rookie de l'année, l'année où on commence par Geoffrey.
J'ai rien compris déjà.
Si je vais. Vous dis...
C'est-à-dire Houston,
en 81, par voilà. Exemple, ça.
Ah, non, allez, non, non, non. Qui a été rookie de l'année, l'année où LeBron James a été drafté? Bah, tu me réponds, LeBron James. C'est clair?
C'est clair, Pierre.
Alors, pas, ça n'a pas l'air clair.
Mais c'est
ça.
Pas clair du tout, parce que l'année où il a été drafté, justement, ce n'est pas LeBron James qui a été, c'est celui d'avant. C'est celui d'avant.
Ben non, si t'es rookie de l'année, c'est l'année
où t'es drafté. En 2004.
Non, bon, t'as compris.
Ah ben, tu vois, donc c'était pas clair. Saison. T'es d'accord avec moi, c'est pas clair.
Bon,
clairement.
Alors, si tu veux, pour moi, c'était très clair, mais peu importe. Alors, pas l'année où il a été drafté, mais lors de sa première saison.
Voilà, ça, là, on est d'accord.
On démarre avec Geoffrey, qui a été rookie de l'année pour la première saison de Tony Parker.
Ouh, c'est dur.
Ah ouais.
Évidemment, ça peut être l'intéressé, hein. Évidemment.
Kobe.
Kobe, non, c'est Pau Gasol en 2001.
Ah, tu peux me l'accorder.
En 2001, ouais. Que Kobe ouais, est...
Tu peux me l'accorder, David. Ah oui, parce que Kobe, Pau, c'est pareil, oui, voilà, c'est ça, d'accord. Allez, on enchaîne, on va aller vite puisque c'est très dur. Fred, qui a été rookie de l'année pour la première saison de Kobe Bryant?
Kobe Bryant.
Eh ben non, c'est Allen Iverson.
Allen Iverson, ok.
Et enfin,
tu peux lui accorder, non?
Ouais, bah, c'est pas loin, franchement.
Qui a été rookie de l'année? L'année où Dwayne Wade a été drafté.
Bah c'est lui, non?
C'est LeBron James, bien ouais. Sûr. C'est la grosse draft 2003. Donc, pas de point, mais c'était très dur. On est d'accord. Allez, on enchaîne. Et là, je me suis fait plaisir. Jalen Brunson a inscrit 40 points ou plus lors de 4 matchs consécutifs de play-off. Et vous le savez, c'est très rare. Ils sont 3 à l'avoir fait avant lui. Fred, tu vas me les donner puisque tu as dû bosser cette question.
Non, mais je sais qu'il y a Jordan.
Il y a Jerry West, Michael Jordan et Bernard King en 1984. Je vais vous poser quelques questions gratuitement, sans aucune raison, sur l'année 1984.
Ah, c'est là qu'il y a la chanson,
normalement. Là, ça va être dur, pas sûr. Qui est MVP en 1984?
Larry Bird.
Larry Bird, bravo Fred, c'est excellent. J'allais vous demander qui est champion et c'était trop facile, c'était Boston. Qui est Rookie of the Year en 1984?
James Worthy.
Non, son nom a déjà été prononcé dans cette émission. Et c'est un peu l'actualité de Wemby.
Tim Duncan.
Non.
Robinson.
Non.
George Gervin.
Non.
L'actualité. Oh.
Il fait partie des mecs qui ont été élus à l'unanimité.
Ah, Ralph Sampson.
Ralph Sampson, il est malin ce Steve.
C'est le père de Véronique.
Il revient à un point de Fred. Et enfin.
Non, c'est pas marrant.
Qui a écrit le livre 1984?
Hein? Stephen King.
Non, Stephen King, toi quand même.
Marie Ginsler.
Quoi? Ah, c'était pour toi, Fred. C'est George Orwell. Oui, mais c'est George Orwell. J'étais sûr que c'était pour toi ce point. Tu vois, c'était un point gratuit
George,
pour toi.
George
Orwell.
Ah, ouais.
Et on va terminer avec un blind test en 19.
Un livre d'anticipation.
Harry Ginsler.
Quoi?
Mais attendez.
Mais elle n'écrit pas les polars, elle, des livres à suspense, non?
C'est un livre d'anticipation un peu.
Oui, 84, lui, tout le monde l'a lu. Mais
tout le monde l'a lu, oui, normalement. Oui, enfin, ici, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il fait.
Ah, moi, j'ai pas anticipé la lecture, hein, je te le dis.
Blind Test 1984 sort un morceau intitulé Basketball, dans lequel notamment on parle de Bernard King. Vous allez essayer de me trouver
Curtis Blow.
Bah, il est bon.
Et Lil Bo aussi, qui l'a repris après.
Ouais, ouais, bon. Exact.
T'as swingé un peu en boîte de nuit sur ça?
Bien sûr, tout le monde connaît ça.
Oui, non mais je te demande si t'as dansé là-dessus.
Alors
non,
c'est pas vraiment le morceau le plus connu de Curtis Blow, puisque c'est The Breaks. Morceau le plus connu de Curtis Blow, tu peux enchaîner. Hein. Voilà. C'est celui-là.
Mais je ne sais pas depuis longtemps que c'est Curtis Blow. Hein. Parce que pour moi, c'est Lil Bo qui chantait ça depuis le début.
Bravo Fred, on en est donc à 7 points pour Fred.
C'est une musique pour faire des couples en jogging Adidas, ça. C'est pour breaker ça.
C'est The Breaks. Et 3 points pour Geoffrey, il reste que la question multipoint. Mm-hmm. Alors attention, elle est bizarre. Il y a 6 noms à trouver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc aux enchères.
Merci Stephen.
Aux enchères sur les équipes restantes. Parmi les starters, il n'y a que 6 trentenaires. Voilà, c'est une nouvelle génération qui arrive en NBA. Est-ce que vous êtes capable de me donner
les équipes restantes? Il n'y a que 6 starters.
Starters uniquement, ouais. 5 majeurs. Geoffrey, première enchère.
2.
2, bah c'est pas beaucoup, ça ouais. te permet pas de gagner. Steve, est-ce que tu en chéris?
Je m'en chéris, je vais dire 3, mais pas le temps avec 2, mais j'ai pas le temps de réfléchir parce que j'étais vite à moi.
Ça me suffit pour gagner.
Ouah, j'ai du mal.
Et est-ce que tu en as 4 pour assurer ta victoire, Fred? Pendant ça, tu peux réfléchir, Jojo. Hein. Tu peux m'en chérir.
J'ai les 3 déjà.
T'as les 3, c'est bien.
Moi, je vais dire 4. Je sais pas, mais
il monte à 4, ça me plaît ça. Jojo, tu montes à 5?
J'ai absolument pas plus.
Et Steve, est-ce que tu montes à 6?
Non, je vais monter à 5.
Ah oui, à 5.
Oui, je vais monter à 5.
Allez, tu les prends les 5. Est-ce que t'as les 6?
Peut-être qu'il veut monter à 6, peut-être.
Fred, non, t'as pas les 6?
Je sais pas.
Tu laisses la main?
Les 5, je t'écoute, t'as pas le droit à l'erreur. Hein.
Mike Conley.
C'est bon.
Alors, je pense, parce que vu que Porzingis s'est pété, Al-Horford, il démarre. Et Al-Horford, il a plus de 30 ans à Boston.
Alors, je ne considère pas comme un starter, donc tu as le droit à une deuxième chance.
Ça me fait mal. ça fait mal dans mes calculs, ça.
Parce que, attends, il s'est pété quand, Porzingis?
Trois matchs, deux matchs.
Deux matchs, il ne joue pas. Ouais.
On va vérifier s'il est titulaire ou pas, mais bon, je t'accorde une deuxième chance, quand même. Alors,
je crois que Kyrie Irving a 30 ans.
C'est une bonne réponse.
Du côté de Boston, je vais dire, je crois que Jrue Holiday a 30 ans
c'est
aussi.
C'est une bonne réponse, on est à 3 là.
Je
ne
l'avais pas,
Jrue. Tu ne l'avais pas,
Jrue.
Ok, ici, il n'y a pas de trentenaire dans le 5 de départ. C'est une certitude. Non, c'est à sûr. Dallas, j'ai fait Kyrie, parce qu'après, Lucas, il n'a pas 30 ans.
Moi, j'hésitais avec PG Washington.
Non, il n'a pas 30 ans. À Minnesota, il y a un trentenaire qui vient d'être papa, il me semble, c'est Rudy Gobert.
Excellent, bien entendu, il t'en manque un.
C'est Minnesota contre qui? Denver. Denver, il y a Kentavious Caldwell-Pope qui doit avoir 30 ans.
C'est excellent, bravo Steve. Tu as gagné ce quiz. Je t'avais dit Fred, ça ne jouerait pas grand-chose, mais il avait gagné.
C'était qui l'autre?
Le sixième, Pascal Siakam.
Pascal Siakam. Ah, oui. Ouh là là, je l'avais pas.
Bah, t'aurais pu tenter les 6, non?
Non, parce que j'aurais raté sur Jrue Holiday, je l'avais zappé lui.
Et bravo, à la semaine prochaine.
Au revoir Pierre.
RMC Basket Time.